on a dit le métal pour l'homme, il existe la rareté, il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique. D'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Et maintenant, cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très 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 forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
Ainsi parlait Simone de Beauvoir. Formidable entretien de la philosophe féministe à lire ce matin dans Le Monde. Nous sommes en 1978, on lui demande « Et les combats pour les 10, les 20 prochaines années ?» Beauvoir répond « Une véritable égalité des salaires et une lutte sur le plan du travail ménager. » 41 ans plus tard, c'est l'État qui doit imposer aux entreprises la parité dans les conseils d'administration et un index de l'égalité. Quant aux enfants, au repas, au linge, au ménage, je ne vous ressors pas les chiffres, c'est la cata. Les femmes continuent d'être ces prestataires non rémunérés de soins à autrui, comme dit l'OIT. Et pour cela, elles choisissent des temps partiels, elles choisissent des entreprises pas trop loin de la maison, et tant pis si elles payent mal. Alors on ne va quand même pas légiférer dans les foyers ? Ben non, et ce serait dommage, d'autant que la solution passe là encore par les entreprises. C'est bien d'offrir des opportunités aux femmes, encore faut-il créer leur disponibilité. Un peu de sincérité, il est temps de changer les injonctions aux salariés et S. La réunion à 18h30, le dossier à boucler, la dernière vente au dernier client, le congé paternité, l'enfant malade. Entreprise, maintenant, si vous voulez vraiment aider les femmes, occupez-vous des hommes.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est On n'arrête pas l'écho et je me permets de signaler que cette émission m'a été confiée au retour d'un congé maternité. Et je salue les pères et époux, bien sûr, formidables de l'équipe, Coy Nguyen, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production, et Johanna Gabric, la technicienne, qui est une femme et pas un père et un époux. Je salue le débatteur Emmanuel Lechypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Catégorie père qui a la chance d'organiser son emploi du temps.
Et oui,
en fonction
on a cette
de ses
chance,
enfants.
C'est pas permis à tout le monde.
Ça dépend des entreprises, je vous dis.
Et qui a la chance d'être le seul homme sur un plateau de femmes, et c'est extrêmement sympathique.
Ce matin, car oui, coucou, Christian Chavagneux qui est en vacances. Bienvenue à Sophie Fay, grand reporter à l'Obs. Bonjour Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
L'actualité est à nous, et l'actualité c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui veut libéraliser plusieurs secteurs, par exemple la santé, le logement, la concurrence qui ferait baisser les prix. Est-ce que cette idée, c'est un mythe, une réalité ? Votre débat dans un instant. Au programme également au Royaume-Uni, l'angoisse du Brexit sans accord, le no deal pour les entreprises britanniques. Vous entendrez le reportage de Marion Lourd. Et puis le Brexit, la guerre commerciale, la Chine qui ralentit. Qu'est-ce qui nous attend dans les mois à venir ? L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, vient de revoir à la baisse ses prévisions. Sa chef économiste sera dans ce studio. Laurence Boone est notre invitée. Ce sera à 9h45. Et puis la femme qui nous dirige tous, c'est Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Ma vie au boulot, c'est Émilie qui vous a écrit.
Oui, au lendemain de la journée des droits des femmes, le diplôme reste-t-il le meilleur moyen de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes ?
Ah oui, on pense que c'est un rempart. Est-ce que c'est vrai pour l'égalité homme-femme ? Réponse, juste avant 10h. Tout de suite, est-ce que libéraliser, c'est bon pour le porte-monnaie ?
Ça ne se fait pas du tout quand on est un responsable politique français de citer Hayek. C'est même probablement assez malvenu, mais je vais quand même le faire. Parce que dans son livre « La route de la servitude », il nous dit que la concurrence, c'est d'abord une question de liberté. La liberté du consommateur, la liberté du producteur, la liberté du citoyen. La concurrence n'est évidemment pas la solution à tous les problèmes, mais elle est une des solutions aux problèmes du pouvoir d'achat auxquels notre société fait face. Le temps est probablement venu de résorber quelques-uns de ces angles morts du pouvoir d'achat, en particulier dans trois domaines de la vie quotidienne. Je voudrais les citer parce qu'ils me semblent assez significatifs. Le premier, c'est celui de la construction automobile, et notamment des pièces de rechange dans l'automobile. Deuxième sujet, le permis de conduire. Troisième sujet, les syndics. Nous allons également examiner avec les professionnels l'assurance santé. Deuxième domaine, nous allons travailler avec les laboratoires d'analyse médicale. Troisième domaine, la vente en ligne de médicaments. La liberté, ça n'est pas un état, c'est un combat. Et c'est toujours un combat.
Voilà, Édouard Philippe, le Premier ministre, qui veut s'attaquer aux angles morts du pouvoir d'achat en libéralisant certains secteurs. Sophie, je me tourne d'abord vers vous. Sophie Fay de l'Obs, il cite Friedrich Hayek. Vous nous rappelez qui est Friedrich Hayek?
Ouais, c'est assez risqué de le citer. Hein. C'est un Autrichien, un grand penseur du XXe siècle qui a théorisé le libéralisme. Mais il était tellement convaincu qu'il fallait aller très loin dans le libéralisme, très loin dans la diminution de la fonction de l'État. Il voulait tellement essayer d'avoir ce système pur et parfait qu'il est allé jusqu'à conseiller Pinochet dans les années 70 au Chili pour essayer de construire cette société libérale parfaite. Et c'est un peu risqué dans le contexte actuel parce que Friedrich Hayek critiquait complètement la notion de justice sociale. Voilà, c'était pas du tout son truc à lui. C'était...
Donc c'est risqué, en effet. Voilà. Je pense que c'est le mot est bien... Ah non, Emmanuel Grimace d'Emmanuel de Chypre.
Ouais, c'est un peu plus subtil que ça parce qu'il dit Hayek, il dit la concurrence, c'est le meilleur système. Grosso modo, pour assurer l'efficacité au niveau de l'ensemble d'un pays. Mais il dit aussi, Friedrich Hayek, et il faut le lire jusqu'au bout, c'est toujours ça quand on lit les auteurs, hein. Édouard Philippe, il faut qu'il se méfie. Parce qu'il disait aussi, attention, la concurrence, parce que là, ce matin, Alexandra, vous commencez à nous faire un micmac entre libéralisme et concurrence. Ah. Et ça me plaît pas beaucoup.
Eh ben, vous allez voilà. Tout de suite rectifier ça.
Et donc, on
ça.
Parle de la concurrence, et il dit, la concurrence, elle est aveugle, elle ne respecte pas l'égalité des chances, et le libre marché demande aux individus des adaptations et des changements permanents qui sont souvent incompréhensibles. Donc, la concurrence, oui, mais le message fondamental, c'est qu'avec des règles du jeu, qui sont très précises et qui doivent être respectées par des autorités, des arbitres qui surveillent ça de très près et qui sanctionnent très fort quand ça n'est pas respecté.
Et donc la différence libéralisme-concurrence, pourquoi vous me dites qu'il y a un micmac ?
Parce que vous pouvez avoir une économie qui n'est pas forcément... Vous pouvez avoir un État, par exemple, qui est beaucoup présent dans une économie, mais avoir des dispositifs extrêmement concurrentiels.
Voilà.
Et Sophie. De la même manière, on peut avoir une économie qui se dit libérale et où il n'y a pas de concurrence. Regardez
absolument.
Ce qui se passe avec les GAFA.
Oui, et effectivement, avec les GAFA. Alors Sophie, le Premier ministre, là, il nous dit qu'il veut toucher à quoi, à quel secteur. Vous pouvez nous rappeler ce que vous avez entendu et pourquoi il le dit. En fait, il fait référence aussi aux dépenses contraintes des Français. Quelle est la réflexion, là ?
La réflexion, c'est de se dire qu'il y a des domaines où il y a des réglementations ou une absence de transparence qui fait que ça fait peut-être monter les prix. On voit ça sur les pièces détachées automobiles, c'est ce qu'il a cité. On voit ça sur les syndics de copropriété. Il le dit aussi sur les permis de conduire. Et donc, dans tous ces domaines, il veut essayer de prendre des mesures qui permettent de libéraliser un peu. De la même manière sur la vente des médicaments en ligne ou sur le développement de ces fintechs, hein, ces applications mobiles qui permettent de mettre en concurrence les services bancaires. Donc sur tout ça, il veut faire des petits changements réglementaires pour essayer de faire baisser les prix. Bon, c'est pas...
Bonne ou mauvaise idée ?
Personne ne peut être contre ça, mais la manière dont il propose... peut être un peu sceptique. Par exemple, sur le permis de conduire, il propose des comparateurs. Alors, c'est toujours bien, les comparateurs. Ça donne de la transparence, mais il faut aussi faire attention parce que on a eu un cas de comparateur, hein, sur les prix du carburant où ça a aidé les distributeurs à voir les prix de leurs compétiteurs et à essayer de s'aligner. Donc, ça peut jouer dans les deux sens. Ensuite, sur le permis de conduire, bah, vous pouvez mettre de la concurrence. Ça permettra peut-être d'aller plus vite pour le passer son permis de conduire. Mais en même temps, vous pouvez pas réduire les prix à un point que ça devienne accessible pour tout le monde parce que ça coûte, il faut quand même payer les instructeurs. Il y a quand même des heures de conduite. C'est pas si facile. Et, je trouve qu'il y a d'autres méthodes pour faire baisser ce prix qui sont plus intéressante. Vous avez par exemple la mairie de Châteauroux qui a proposé une bourse où les jeunes peuvent faire des travaux d'intérêt général, s'engager, donner une 50 heures de temps à la collectivité et en échange on les aide à financer le coût de leur permis de conduire. Donc si on veut alléger le coût de ces services dans le panier des ménages, il y a d'autres méthodes que la seule concurrence.
Emmanuel Le Chip, vous, quand vous avez entendu le Premier ministre, c'est passé un peu sous le radar de l'actu, mais bon, on y revient, c'est notre choix ce samedi. Vous en avez pensé quoi de cette idée ?
Ah non, c'est une excellente idée sur le principe. Hein. D'abord parce que le pouvoir d'achat, il faut le rappeler, il y a trois leviers. Il y a les salaires, mais ça, l'État, il peut pas faire grand-chose. Il y a la fiscalité. Bon, là-dessus,
on est
même au bord de l'hyperactivité, si vous voulez, sur le sujet. Et puis, il y a faire baisser les prix. Et là où il a raison, Édouard Philippe, c'est enfin de nous montrer que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire souvent, ce que certains partis veulent nous faire croire, que la menace pour l'économie française, c'est cette espèce d'hyper-concurrence qui vient de l'extérieur, de l'étranger. Non, la vraie menace, c'est le manque de concurrence à l'intérieur. Hein ? Si vous prenez le rapport de France Stratégie, par exemple, il vous dit que le niveau des prix en France parce qu'il y a moins de concurrence qu'en Allemagne, est supérieure de 5% en moyenne à l'Allemagne. Les prix industriels, secteur où il y a énormément de concurrence depuis 2000, ils ont baissé. Les prix des services où on manque de concurrence en France, c'est plus 25%. Donc, il y a plein de secteurs dans lesquels on a trop de réglementation, trop de protection pour les acteurs en place. La grande distribution, par exemple, prenez les lois Royer, Raffarin, il y a eu des estimations qui ont été faites sur le fait que ça empêchait l'installation d'autres grandes surfaces, malgré le fait qu'on ait beaucoup de grandes surfaces, ça empêchait d'autres magasins de s'installer, ça a pu coûter jusqu'à 1 milliard par an aux consommateurs français. Donc il a raison de dire qu'il faut mettre plus de concurrence dans tout un tas de secteurs réglementés pour faire baisser les prix et redonner du pouvoir d'achat effectivement aux consommateurs.
Sophie, il a raison, mais il est un peu contradictoire parce que d'un côté, son gouvernement pousse cette loi Egalim qui fait exactement l'inverse.
C'est la loi sur l'alimentation qui touche les grandes surfaces et leurs relations avec les producteurs.
Voilà, c'est cette loi qui dit inciter les grandes surfaces à ne pas faire de vente à perte sur les produits de grandes marques, hein, les alcools, le Nutella et tout ça. Et en contrepartie, on va leur demander de mieux rémunérer les petits producteurs agricoles. Et on espère que ça va fonctionner. On espère qu'ils vont pas, ils vont vraiment rendre leur marge aux petits producteurs et pas. Et on sait que c'est très risqué, que ça fonctionne pas très bien, et l'autorité de la concurrence a calculé que ça risquait de coûter entre 600 millions et 4 milliards et demi de pouvoir d'achat aux ménages sur 2 ans. Donc d'un côté, moi je trouve personnellement que la loi Egalim c'est quand même une bonne chose, c'est une bonne démarche, c'était une démarche concertée, mais du point de vue d'Edouard Philippe, il est pour la concurrence ou pour la concurrence à moitié ou il est un peu brouillon quand même.
Ça un peu brouillon. Et en plus, apparemment, pour le consommateur, d'un côté, donc il va avoir des prix montés, vous dites, et puis l'autre côté, on ferait baisser d'autres choses. Oui, on ne sait pas très bien à quoi ça va aboutir. Emmanuel.
Enfin, je veux dire, il faut rappeler quand même les grands effets qui se produisent dans une économie quand vous mettez plus de concurrence. Globalement, tout ça est assez bien documenté. Alors, on pense souvent effectivement au levier pouvoir d'achat. C'est vrai qu'en général, quasiment tout le temps, la concurrence, ça fait baisser les prix. Et là, Egalim, par exemple, c'est l'exemple. Emmanuel Combes, qui est un économiste qui est spécialiste de la concurrence, qui a dirigé en partie l'autorité de la concurrence, il vous dit n'oubliez jamais que quand vous ne serait-ce que gagnez 30 euros par an pour un Français, sur 60 millions de Français, ça vous fait vite 2 milliards d'euros d'économiser sur l'année. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la concurrence, c'est aussi un facteur qui permet d'élargir la taille d'un marché. Parce que souvent, vous faites baisser les prix. Donc, c'est ce qu'on a vu dans plein de secteurs. Regardez le transport aérien, par exemple. Mettre de la concurrence, ça a fait baisser les prix. Ça permet à beaucoup de gens de voyager. Ça favorise la variété de l'offre parce que les entreprises, elles essayent de se distinguer. Prenez la grande distribution, par exemple. Il y en a qui vont jouer sur les prix, donc qui vont jouer sur les horaires d'ouverture, etc. Donc, ça fait une offre plus élargie. La concurrence, elle est évidemment pas antinomique avec la qualité parce que pour se distinguer des concurrents, il faut avoir des bons services et des bons produits. Ça fait entrer des nouveaux acteurs. Et puis, surtout, ça fait de l'efficacité dans l'économie et toutes les études vous montrent que ça fait de la compétitivité supplémentaire. Donc globalement, mettre de la concurrence, c'est bon pour votre économie. Il n'y a qu'un seul sujet sur lequel on va sans doute arriver qui est l'emploi, où là effectivement, le problème c'est que quand vous mettez de la concurrence, ça fait toujours au global des gagnants, mais ça fait quand même des perdants.
Ah non, avant d'arriver à l'emploi, Emmanuel, il faut quand même qu'on discute de ce que vous venez de dire. La concurrence, ça fait toujours baisser les prix. Moi, je me dis peut-être, Sophie, qu'il y a des gens derrière leur poste qui doivent se dire, ah ben non, l'énergie, il y a eu de la concurrence, on ne voit pas trop baisser les prix finalement, non ? Je sais pas. Il y a des secteurs où l'arrivée de la concurrence se traduit peut-être par plus de services, mais pas par des baisses de prix, non, Sophie ?
Il y a surtout pas forcément de hausse de pouvoir d'achat. Par exemple, si vous regardez les télécoms, il y a eu des baisses de prix assez phénoménales quand le quatrième opérateur est arrivé. Mais quand on regarde le budget télécom et Internet dans l'ensemble du budget des ménages, ça augmente parce que les usages augmentent. Donc heureusement que les prix ont baissé, mais en tout cas en volume, ça n'a pas beaucoup baissé. Quand on regarde l'énergie, ça a très peu baissé. Et puis tout de suite, le médiateur de l'énergie a dit « Faites attention au comportement parfois limite de certains opérateurs qui poussent… »
De démarchage, oui.
Et puis là, sur l'énergie, on se heurte à un autre problème. Est-ce qu'on veut vraiment que les prix baissent ? Parce que même les économistes les plus libéraux disent « Est-ce que le but, c'est que les prix baissent ?» Donc le but aurait été… Parce que quand le prix baisse dans l'énergie, les gens consomment plus et la consommation marginale, elle fait tourner plutôt les énergies fossiles que les énergies propres. Donc on a un risque. Donc les économistes pensent aussi que il faut un peu réfléchir à l'aspect environnemental. Il n'y a pas que le prix qui compte. Et puis il y a un autre domaine, par exemple si vous regardez les bus Macron, donc ça a augmenté la concurrence dans le transport, c'est assez formidable parce que ça a donné accès à des gens gens qui pouvaient pas voyager à un prix moindre, mais ça a pas du tout fait baisser les prix de la SNCF. Donc ça dépend un peu de la taille et de la composition des marchés. Et puis quand on regarde sur le prix des médicaments, par exemple, les médicaments déremboursés, en fait, leur prix augmente significativement. Donc on pourrait dire il y a de la concurrence finalement sur les médicaments déremboursés, puisque c'est plus la Sécu ou l'État qui encadre le prix avec les labos. Mais comme il y a cette TVA qui est plus élevée, et comme les labos essayent de se récupérer sur le volume, la baisse de volume après le déremboursement, en augmentant les prix, mais finalement là, le marché ne fait pas baisser les prix.
Emmanuel, ouais.
Sur l'énergie, c'est encore une fois d'abord, c'est quand même pas une concurrence ultra violente. Hein. Il faut rappeler que sur l'électricité, par exemple, vous avez que 20% seulement des producteurs alternatifs qui satisfont les besoins des Français. C'est 30% pour le gaz. Donc c'est pas énorme. Et puis vous êtes dépendant quand même de l'évolution de votre matière première, hein, le pétrole, etc. Enfin, les effets de la concurrence sur les prix, franchement, ils sont assez clairs.
Alors,
regardez les télécoms. Moi, je veux effectivement. Sophie a dit les prix ont chuté et on dépense plus. Oui, mais ça n'empêche que on pourrait pas se payer ce qu'on se paye aujourd'hui si les prix n'avaient pas chuté. Donc oui, sur les médicaments, est-ce que la concurrence elle est si forte que ça? Donc moi je trouve que sur les prix, la promesse elle est tenue. Le transport, la SNCF baisse pas ses prix, grand bien lui fasse. Les gens ils prennent les cars Macron, ils ont un nouveau service à un prix moins cher.
Non, donc, mais ce que dit Sophie, c'est que c'est un peu plus subtil quand même.
Non, sur les prix, moi je trouve que c'est pas subtil. Sur les prix, ça baisse. Par contre,
alors,
effectivement,
l'emploi.
C'est là où oui, sur tous les sujets qu'on a évoqués, la déception elle est au niveau de l'emploi. Si on reprend les cars Macron par exemple, on nous avait promis plus de 20 000 créations d'emplois, là, on n'y est pas, par exemple. Et ça, ça pose problème. Et sur tous les sujets, c'est un peu quand même le même problème, c'est que on n'a pas forcément toujours les créations d'emplois, même si mécaniquement, c'est possible. Prenez par exemple quand on a libéralisé le transport routier dans les années 80, et là, pour le coup, vous avez vraiment créé des emplois dans le secteur. Donc, la concurrence, est-ce quand c'est bien fait, c'est une question d'architecture, de design.
De régulation, c'est
oui,
ça.
Oui, exactement, de régulation. Quand la régulation est bien faite, ça produit, c'est bien fait.
Là, on est d'accord. Sophie.
Mais en quantité, sur l'emploi, en quantité, on s'y retrouve. En tout cas, on voit que quand on met des barrières protectionnistes, quand Bush met des barrières sur l'acier, ça détruit de l'emploi. Donc, il faut mieux un peu de concurrence pour l'emploi. Il y a l'exemple des transports que citait Emmanuel. On peut aussi citer l'exemple d'Uber. Ça a créé beaucoup d'emplois, finalement, l'arrivée des VTC. La question, c'est la qualité de l'emploi. La qualité de l'emploi, avec la concurrence, dans un premier temps, elle se dégrade. Et donc, qu'est-ce qu'on a en face comme institution pour aider les salariés ou les nouveaux entrepreneurs à se défendre? Comment on s'organise? Et on voit la différence avec certains pays, notamment en Allemagne. Emmanuel disait tout à l'heure que sur certains domaines, il y a plus de concurrence. Mais en Allemagne, on a des syndicats qui sont bien organisés et qui défendent les professions. Et donc, c'est là où les branches professionnelles ont peut-être aussi un rôle à jouer. Parfois, on les accuse de mettre des barrières à l'entrée. Mais souvent, en fait, ce sont elles. Et c'est les syndicats, les auto-entrepreneurs, les chauffeurs Uber en s'organisant qui peuvent lutter contre les risques de la concurrence sur la qualité de l'emploi qui sont importants.
Emmanuel Le Chip. Non,
mais je crois que c'est la grande leçon. La mécanique de la concurrence, elle fonctionne. Après, c'est une question de pouvoir et de contre-pouvoir. Sophie a raison. Effectivement, c'est une question de régulation et de respect des règles du jeu et de pouvoir des arbitres. Je vous cite quand même pour finir le chiffre de l'OCDE qui nous dit que si on avait une intensité de concurrence en France qui soit alignée sur les meilleurs standards de l'OCDE, vous auriez 500 000 à 1 million d'emplois supplémentaires dans notre pays.
Il y a même des domaines où il faut plus de concurrence, c'est Joseph Stiglitz qui le demande, et c'est tous ces domaines où des grands acteurs mondiaux ont capté la capacité de faire le prix, c'est-à-dire la pharmacie ou les GAFA.
Et je cite une très bonne étude d'alternative économique, puisque Christian n'est pas là.
Allez-y,
une très bonne étude de Martin Anota qui vous montre en plus que le manque de concurrence creuse les inégalités sociales. Voilà.
D'accord, on lira ça dans Alternatives
Économiques. Pas assez de concurrence, c'est plus d'inégalité sociale.
La concurrence bien régulée en tout cas. Alors à présent, Sophie, vous parliez tout à l'heure des États-Unis. Eh bien l'économie, comme elle se passe ailleurs, on va parler maintenant du pouvoir d'achat des Américains et de ce qu'ils achètent, tiens.
Welcome to a special edition of The Economy and the Future for American Prosperity.
Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Comme régulièrement, on essaie de voir si les méthodes de Donald Trump, au-delà de la forme, ont un intérêt sur le fond. Et là, Pierre-Yves, en ce qui concerne le commerce extérieur, une de ses priorités, La réponse est claire, elle est même assez ironique. En 2018, malgré la hausse des droits de douane, le déficit n'a pas baissé. Au contraire, Pierre-Yves, il a battu un record.
Et oui, le déficit commercial américain est remonté au plus haut depuis 10 ans. Il se creuse de 12%. Et si l'on ne tient pas compte des services, où les États-Unis ont encore un surplus, effectivement, on enregistre un record absolu. C'est humiliant pour le président Trump, qui se dit en train de remporter la guerre commerciale qu'il a soigneusement attisée. On voit que 60 pays, dont la Chine, mais aussi l'Allemagne, le Mexique, enregistrent un surplus commercial record avec les États-Unis en 2018. Les barrières douanières américaines érigées l'an dernier n'ont donc pas tant freiné que ça les exportations allemandes ou chinoises. Bon, alors on peut avoir quelques explications simples à ce paradoxe. La première, bien sûr, la croissance américaine, et en particulier la consommation et l'investissement, sont bien plus forts qu'en Europe ou qu'au Japon, alors qu'en Chine, le ralentissement en général a réduit la demande pour les produits américains. Deuxième explication, et c'est d'ailleurs ce que répète Wilbur Ross, le secrétaire du commerce, depuis des mois, ces sanctions américaines ne sont pas si violentes que ça. Imposer, comme cela a été fait en juillet, une surtaxe de 25% sur 50 petits milliards d'importations chinoises, réparties sur 1000 produits. Finalement, c'est assez peu rapporté aux 540 milliards de dollars d'importations chinoises. Quant à la surtaxe de 10% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires, en fait, elle n'est entrée en vigueur qu'au mois de septembre. Alors, si on ajoute à cela les mesures chinoises de rétorsion, qui, c'est vrai, ont plombé les exportations américaines, notamment de soja et de porc, si on ajoute à cela la décision des exportateurs chinois de baisser leurs prix, sans oublier aussi l'effet de la dépréciation de la monnaie chinoise, ben on voit que pour le moment, les échanges sino-américains ne sont pas trop bouleversés.
Et en clair, ce que j'entends à travers ce que vous me dites, c'est quand même que les Américains sont toujours accros aux produits chinois. Et à cela, Trump ne peut rien, Pierre-Yves.
Oui, ça c'est vrai. La première catégorie de produits importés en provenance de Chine, qui est d'ailleurs 4 fois plus grande que la seconde catégorie, ce sont les produits électroniques et informatiques, les téléphones portables, les télévisions. Seconde catégorie, les équipements électriques. Puis viennent ensuite des produits manufacturés, des vêtements et des meubles. Il suffit de rentrer dans un Walmart. Walmart, c'est la première chaîne de distribution des États-Unis pour constater qu'il est vraiment difficile de ne pas acheter chinois. Mais alors attention, Donald Trump ne cherche pas uniquement à protéger les industries américaines de la concurrence étrangère. À part les aciéristes ou quelques branches très spécifiques comme celle des machines à laver, les autres industriels américains n'ont rien demandé à Donald Trump. Les constructeurs automobiles de Détroit en particulier sont opposés aux droits de douane sur les véhicules étrangers. Ils ne veulent pas de ce protectionnisme. Donald Trump dit qu'il relève les droits de douane pour obliger les Chinois, mais aussi les Allemands, à négocier et à lever leurs barrières douanières, et ce afin d'accroître les exportations de biens industriels et doper l'emploi industriel américain. Alors de ce point de vue, c'est sur le déficit commercial américain, ou plutôt dans 2 ans, qu'il faudra juger la politique de Donald Trump.
Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. Merci à vous, merci aux débatteurs. Sophie Fay et Emmanuel Lechypre. À venir dans la prochaine demi-heure, c'est Laurence Boone, notre invitée, la chef économiste de l'OCDE. Et tiens, Sophie, je sais que vous travaillez beaucoup en ce moment sur le Brexit. C'est quoi l'état d'esprit, là, la grande angoisse?
J'ai l'impression que les Britanniques n'en peuvent plus. Ça fait plus de 2 ans qu'ils n'entendent parler que de ça, matin, midi et soir. Il y a un grand désespoir parce qu'ils se rendent compte que leur classe politique n'arrive pas à les sortir de cette situation. Et il y a une énorme lassitude avec une grosse angoisse puisque on ne sait absolument pas définir l'avenir.
Nous sommes à 3 jours d'un nouveau vote crucial au Parlement britannique. Il y a un accord de divorce sur la table, mais les tractations, elles continuent en ce moment même et tout le pays retient, vous avez raison Sophie, retient son souffle, les ménages qui remplissent leurs placards, mais aussi les chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'ils gèrent l'incertitude, eux? Allez, bien, ce matin, let's go, nous partons de l'autre côté du Channel.
Je suis Philippe Chaigneux, le CEO de Met.com. On se prépare au pire. Le vrai sujet, c'est comment les produits qui vont être acheminés des usines de fabrication à leurs clients, c'est l'élément de perturbation. On a fait en sorte que les éventuels problèmes que l'on pourrait avoir à la douane anglaise n'impactent pas les consommateurs européens. Ça impactera probablement les consommateurs anglais, mais comme tout le monde. Quels seront les délais d'attente? On n'en sait rien. Est-ce que les tarifs seront appliqués? On n'en sait rien. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien distinguer ce qui était de nos activités en Europe de ce qui était de nos activités en Angleterre.
Sur les salariés, comment ça se passe? Comment vous faites? Vous allez pouvoir continuer parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout.
Oui, on a 30 nationalités différentes. Pour l'instant, on ne sait pas en Angleterre ce que sera le statut des gens qui travaillent après le 29 mars.
Donc vous ne pouvez rien faire?
Ce qu'on a fait, c'est que la société, le centre, historiquement, était à Londres et on a développé des bureaux dans un certain nombre de villes européennes, comme Paris, comme à Amsterdam, comme à Berlin. Et donc on a commencé à installer des équipes plus proches de nos marchés et puis voilà, qui nous permettent aussi de pouvoir avoir plusieurs options, quelle que soit la configuration. Je suis, je ne veux pas dire serein, mais en tous les cas, on a des plans qui ont été pensés et qui sont en cours d'exécution.
Pour vous, ça représente un coût, cette préparation?
Absolument.
Vous pouvez le chiffrer?
Non.
À 20 jours de la date prévue du Brexit, on n'en sait rien, on ne sait pas. On se prépare au pire. Voilà ce que dit ce fabricant de meubles à notre reporter Marion Lourd. Depuis un an et demi, ce patron a étudié chaque scénario. Pour les normes, pour l'approvisionnement, pour les équipes. Il a multiplié, vous l'avez entendu, les filets de sécurité. À chacun sa stratégie, pour tous l'incertitude. Regardez, maintenant nous quittons Londres pour Birmingham. Une belle usine d'emboutissage, ma foi, elle s'appelle Brandewer. Elle produit aussi bien des connecteurs télécoms que des raccords de plomberie. Son patron s'appelle Rowan Crozier. Lui aussi, il a essayé d'anticiper le Brexit, surtout s'il n'y a pas d'accord. Et il n'a pas peur de le dire, ça lui a déjà coûté 115 000 euros.
Alors ce que vous voyez ici, c'est un de nos clients qui nous a demandé de garder un peu plus de stock qu'on le ferait normalement à cause des risques liés au Brexit. Vous pouvez voir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes de produits ici, prêts à l'envoi. Normalement, on en aurait 4 ou 5 en stock, donc ça représente une quantité limitée. Ça n'implique pas non plus un coût ou un espace énorme, mais tout de même, ils nous demandent de garder un peu plus de stock qu'on en aurait normalement pour qu'on puisse réagir plus vite s'il y a des changements dans les normes ou des délais dans les livraisons. Nous continuons à gagner des marchés en Europe. Donc notre première préoccupation avec le Brexit, ce sont des problèmes de livraison et d'approvisionnement à court terme. Comme nous exportons vers 22 pays, nous avons l'habitude de commercer selon les règles de l'OMC. Pour ça, on a de l'entraînement. Donc vraiment pour nous, le principal problème, ça risque d'être les perturbations dans les ports, Douvres et Calais étant nos priorités. Donc, ce qu'on a fait, c'est de travailler avec notre responsable logistique pour trouver des entrées et sorties alternatives vers le Royaume-Uni. Donc, on pourrait utiliser des avions, ce qui coûterait plus cher, mais résoudrait les problèmes à court terme pour apporter les produits à nos clients ou faire venir des matériaux de nos fournisseurs. De la même façon, on regarde quels autres ports on pourrait utiliser pour sortir et rentrer au Royaume-Uni. Par exemple, Felixstowe ou Ellesmereport.
Le transport, les stocks, bref, la logistique, c'est un des points qui alarme le plus les industriels. Faute de savoir de quoi demain sera fait, ils stockent à des niveaux records matières premières et produits finis. Retour à Londres, à Gower Street, je suis devant la porte de la UKWA, c'est la Fédération des entrepôts, l'un des rares secteurs, peut-être, à bénéficier de l'incertitude du Brexit qui fait grimper la demande.
Peter Ward, je suis le patron de la Fédération des entrepôts britanniques. Il y a une pénurie d'entrepôts corrects de la bonne taille, au bon endroit et correspondant à la demande. C'est lié à l'explosion du commerce en ligne. Donc, trouver du stockage supplémentaire n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et puis, c'est particulièrement compliqué pour les entrepôts réfrigérés et surgelés. En ce moment, les gens se préparent à une situation d'urgence au cas où il y ait un Brexit sans accord. Et ça a eu des conséquences là-dessus. Donc, maintenant, ça va être très difficile à trouver, sans doute pour les 3 ou 6 mois à venir. Un autre secteur à risque, c'est l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de produits pharmaceutiques sont importés au Royaume-Uni et il y a seulement 5 entreprises chez nous qui disposent d'une licence pour s'occuper des médicaments sur ordonnance. Dans notre fédération, la plupart des membres à cette époque de l'année tourneraient avec des entrepôts pleins à 85 à 90%. 90%. En ce moment, ils sont à plus que ça, plutôt 90, voire 95%.
Et si je suis une entreprise qui veut stocker des choses en prévision du Brexit, est-ce que aujourd'hui c'est trop tard?
Il reste quelques espaces encore. Mais une entreprise qui n'a pas encore commencé à se préparer est sans doute en retard maintenant. Nous mettons tous nos espoirs dans le fait que quelque chose va se passer pour éviter le jour d'après un Brexit sans accord. Ce serait une catastrophe pour l'industrie en général.
S'il n'y avait pas d'accord, tout le Royaume-Uni pourrait même plonger dans la récession. Selon l'OCDE, avec une prévision de croissance à moins de 1% cette année, elle se fiche déjà la croissance à 0,1% au premier trimestre, selon IHS Markit, tandis que les services réduisent leur taux d'emploi à une vitesse jamais vue depuis la crise. C'est toute une économie qui stagne sous l'œil des spécialistes, parfois juges et partis. Rendez-vous pour en parler dans un immeuble de la City.
Je suis Brian Hilliard, je suis l'économiste en chef de la Société Générale à Londres.
Est-ce que les entreprises aujourd'hui sont prêtes pour le Brexit? Et je dirais pour n'importe quel type de Brexit.
Je crains que la réponse soit non. Je crois que la plupart des entreprises attendaient des orientations claires de la part du gouvernement sur la physionomie qu'aurait le Brexit et s'il allait avoir lieu dans les temps. Ce n'est que récemment qu'on a eu des informations là-dessus. Et je crois que l'une des craintes des entreprises britanniques, c'est qu'on aille dans le mur et qu'il y ait une absence d'accord de sortie. À quoi ressembleront les taxes douanières? S'appliqueront-elles immédiatement? Est-ce qu'il y aura des blocages à la frontière? Tout ce genre de choses crée de l'incertitude, ce qui affectera la capacité à faire des affaires. En fait, les entreprises n'ont pas le temps de se préparer. Les entreprises qui devraient souffrir le plus, ce sont celles qui font du commerce physique et passent par le port de Douvres. Le fait même que le gouvernement britannique se prépare à mettre en place des parkings d'urgence et utilise pour ça les autoroutes, ce qu'on n'a jamais vu avant, ça dramatise un peu l'ensemble. Je pense que ce serait naïf de penser que la transition sera douce et sans douleur.
Et le secteur bancaire et financier, vous en faites partie? Est-ce que lui non plus n'est pas préparé pour le Brexit?
Heureusement, je crois que le secteur de la finance a ostensiblement fait des efforts pour se préparer au mieux. Je ne dis pas qu'on a été parfait, mais il y a certainement eu des discussions approfondies à tous les niveaux avec les régulateurs. Je crois que le point principal, c'est que par rapport aux premières craintes et prévisions qui ont eu lieu juste après le référendum, le nombre de banquiers de bureaux déplacés au total est bien inférieur à ce qui avait été anticipé.
Est-ce que quelqu'un, vous peut-être, a calculé le coût exact du Brexit?
C'est impossible de le savoir. Mais à tout le moins, on peut voir que les entreprises s'inquiètent et deviennent beaucoup plus prudentes. Et cette prudence va durer jusqu'à ce qu'on ait de la clarté sur la façon dont le Brexit va finalement se mettre en place. On espère que ça sera plus clair dans le mois à venir ou le suivant, mais ça a été un processus très lourd et ça pourrait durer encore plus longtemps. La confiance des entrepreneurs sera impactée tant que ce ne sera pas réglé.
Brexit, le grand flou, c'était le reportage de Marion Lourd.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Le Brexit, les tensions commerciales, où vont nos économies en général et puis celles de la France en particulier? Ce matin, notre invitée, c'est Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE. Bonjour et bienvenue Laurence Boone.
Bonjour Alexandra.
L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Son siège est à Paris, pas loin de la maison de la radio. Son influence est mondiale. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler la mission de l'OCDE?
Alors, l'OCDE a été fondée dans la foulée du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe. Et puis ça s'est agrandi, aujourd'hui il y a à peu près 35 pays membres. Et l'objectif de l'OCDE, c'est en fait de comparer les meilleures pratiques de politique économique dans les pays, de façon à en faire bénéficier tous ses membres. Donc, par exemple, puisque vous voulez en parler tout à l'heure, qu'est-ce qui est bien pour favoriser l'égalité des genres et pourquoi c'est utile pour l'économie?
Ah ben, on va en parler. Mais d'abord, le Brexit, on vient d'entendre ce reportage. Personne n'a idée de ce qui va se passer. Est-ce que vous, à l'OCDE, vous avez un scénario un peu clair en tête, au moins sur l'impact, quoi, la possibilité?
Alors, dire qu'on a un scénario très clair en tête, hein, ça serait très prétentieux, puisqu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On a quatre cas de figure possibles. Hein. On a le pire, qui est une sortie sans accord. On a soit une sortie le 29 mars, comme c'était prévu, soit on a un vote cette semaine qui fait que la sortie est repoussée, ou la décision est repoussée de quelques mois. Soit, dans le pire des cas, même le Royaume-Uni peut décider de révoquer unilatéralement l'article 50 et donc de ne plus sortir.
Et c'est le pire des cas.
Enfin, c'est pas le pire des cas. Le pire des cas, c'est la sortie sans accord, hein, effectivement. Après, dans tous les cas, en fait, ce qui domine, c'est l'incertitude. On voit déjà depuis 2 ans que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. L'impact que ça a eu sur l'économie, ils ont perdu à peu près 2% de leur production ou de leur richesse. Hein, ça fait quand même 50 milliards si on compare l'évolution de leur croissance par rapport à celle de leur pays voisin ou des États-Unis. Et puis, quand on regarde, je trouve ce qui est le plus frappant, c'est l'investissement qui s'est arrêté de croître depuis le début 2017. Et si vous voulez en rajouter un peu, puisque vous parliez pouvoir d'achat tout à l'heure, depuis aussi le vote du référendum, comme la livre s'est dépréciée, l'inflation a augmenté, ils ont perdu du pouvoir d'achat.
Et nous, dans cette histoire-là, nous, la zone euro, on sera impacté fatalement par ce Brexit ?
Oui, on peut pas dire qu'on sera pas impacté, ce serait mentir, parce que, et on le voit déjà aussi, il y a plein de facteurs d'incertitude sur l'Europe, avec la baisse de la demande en Chine, avec les tensions commerciales, et on voit aussi que la baisse de la demande qui provient du Royaume-Uni a un impact sur la croissance européenne. Maintenant, tous les pays sont pas impactés de la même façon. Il y a des pays qui ont des relations beaucoup plus étroites avec le Royaume-Uni que d'autres, à commencer par l'Irlande, bien sûr, mais aussi les Pays-Bas, par exemple. Et puis, on aura sûrement des impacts sectoriels, par exemple dans l'agriculture ou bien dans les produits électroniques qui passent leur temps à traverser la Manche pour les échanges et pour leur production.
Alors cette semaine, Laurence Boone, l'OCDE a dévoilé des prévisions intermédiaires. Vous avez en quelque sorte sonné l'alerte, essentiellement à cause des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. On a une croissance mondiale qui ralentit. Et pour la zone euro, la Banque Centrale Européenne a décidé d'annoncer qu'elle réinjecte des liquidités dans le système bancaire, qu'elle maintient les taux très bas et qu'ils n'augmenteront pas avant 2020. Est-ce que pour vous, c'est le bon niveau de réponse ?
Alors, oui, nous, on a revu nos prévisions à la baisse, effectivement, pour un ensemble de raisons. En fait, on a vraiment peser beaucoup ce qu'on faisait, puisque c'est jamais très agréable d'envoyer un message alarmiste comme ça. Donc on veut être le plus confiant possible qu'on a raison de le faire. La première des sources d'incertitude, vous l'avez dit, ce sont les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Quand on regarde le volume des échanges commerciaux, il s'est vraiment presque effondré par rapport à ce que c'était avant. Vous prenez les exportations en biens des pays de l'Union européenne vers l'extérieur. Elles croissaient à peu près 6% il y a 2 ans. Elles ont maintenant un taux de croissance de 0. Donc on voit tout à fait l'impact, on le voit sur l'économie chinoise et sur d'autres aussi. Après, il y a la Chine elle-même, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce que je trouve le plus révélateur sur la Chine sont les autorités chinoises qui ne donnent plus une prévision de croissance comme elles le faisaient avant. Elles disent plus « on veut 6,2 pour 2019 », elles disent « on sera dans un intervalle entre 6 et 6,5 », ce qui montre bien qu'elles sont absolument pas sûres de là où elles vont, ni des mesures qu'elles ont prises.
Donc alarme, vous sonnez l'alarme.
Exactement.
Et pour la zone euro, cette action de la BCE, est-ce que vous la trouvez au bon niveau, pertinente ? Est-ce que ça va nous protéger ?
Alors, pour la zone euro, effectivement, la Banque centrale, je pense, a fait le maximum de ce qu'elle pouvait. D'ailleurs, depuis le début de la crise, il faut reconnaître depuis 10 ans qu'elle est quand même la plus active aux manettes. Hein. Maintenant, la Banque centrale ne peut pas tout. D'ailleurs, elle l'a dit, elle ne peut pas tout. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument utiliser le cadre européen qui permet de se coordonner pour faire des investissements publics chez les pays qui ont peu de dettes publiques, et donc beaucoup de pays du nord de l'Europe, il faut quand même le dire.
Pas la France.
Et
là, vous ne pensez pas à la France quand vous dites ça.
On ne pense pas à la France quand on dit ça. Et ensuite, que ces pays se coordonnent aussi pour faire des réformes vraiment de fond. Vous avez parlé d'écart Macron, mais par exemple, le libre marché des services en Europe, il n'existe pas vraiment parce que chacun rajoute ses contraintes réglementaires un petit peu partout pour privilégier son marché. Et c'est dommage parce que ça prive les entreprises d'un marché de plus de 350 millions de consommateurs.
Donc vous dites c'est aux États, à ceux qu'ils peuvent d'investir. Il y a ce problème de finances publiques quand même. Est-ce qu'il est temps de repenser la contribution des ménages, des entreprises et en particulier de faire contribuer plus tout simplement les multinationales ?
Alors ça c'est une super bonne question, puis c'est un des chevaux de bataille de l'OCDE. Effectivement, de dire une des meilleures réponses à la fois pas forcément économique, mais un peu économique quand même, et politique à la mondialisation, c'est effectivement que chaque entreprise multinationale paie le montant d'impôt qu'il doit payer en fonction de là où il produit, là où il l'emploie et là où il vend. Et donc on a un groupe de 127 pays quand même qui travaillent sur le sujet, qui se sont mis d'accord dans une première phase pour faire des échanges automatiques d'informations, donc la transparence sur ce que font ces entreprises multinationales, et qui maintenant est en train de travailler, vous parliez tout à l'heure de la concurrence dans le commerce, à comment est-ce que la numérisation de l'économie affecte cette concurrence et quel serait le bon système de taxation de ces grandes entreprises multinationales, sachant que maintenant elles ont ce levier avec la digitale, de pouvoir être à peu près n'importe où dans le monde pour vendre à peu près n'importe où dans le monde.
Justement, vous en parlez du digital. Quel est votre regard sur cette taxe GAFA que la France met en place toute seule en attendant une initiative au niveau de l'OCDE, peut-être en 2020 ?
Alors d'abord, merci, vous êtes super bien renseigné, puisqu'effectivement, on attend des résultats de ce groupe de travail pour 2020. Vous savez qu'il y a deux piliers, il y a ce pilier de savoir comment et où on va taxer, et puis peut-être comment on peut remédier au fait que certaines entreprises échapperont à ça. Est-ce qu'il faut faire un impôt minimum mondial sur les entreprises ? Ce que fait la France, comme ce que font d'autres pays de l'Europe d'ailleurs, c'est de dire, en attendant qu'on arrive à cet accord en 2020, pendant qu'on est en train de travailler, on met une taxe en marche chez nous. Et ce qui est dommage, c'est que ça reflète quand même qu'au niveau européen, on n'est pas réussi à se mettre d'accord sur le sujet.
Mais vous diriez que c'est mieux que rien ?
C'est un signal.
Parce qu'elle a été beaucoup critiquée, pardon. Elle a été beaucoup critiquée pour son calibrage. On dit qu'elle n'est pas...
Voilà. Pour moi, c'est plus un signal politique qu'un outil économique.
Alors, Laurence Boone, si on regarde la France précisément, on est à un moment clé, un moment avec un grand débat, avec des citoyens qui ont des attentes, des réformes qu'ils aimeraient voir faites. Pour vous, comment elle se pose, l'équation ?
Alors, on a pas mal regardé ça, parce que c'est quand même très intriguant, puisque tout le temps on entend « mais la France est la championne de la redistribution ». Donc, on a regardé ça et je me suis dit, on va quand même regarder au niveau international, est-ce que c'est vrai qu'on est la championne de la redistribution ? Et en fait, ce qui est très frappant, c'est qu'on est effectivement très bon pour corriger de la pauvreté, il faut le reconnaître. On a un système d'impôts, de transferts qui évite de tomber en fait bas, et très bas. En revanche, on est très mauvais en égalité des chances, mais vraiment très très mauvais. C'est-à-dire que vous commencez par être dans un territoire où vous avez peu d'accès aux gardes d'enfants. Après, vous aurez peu d'accès aux meilleures écoles. Ensuite, vous n'aurez pas d'accès aux informations, donc vous ne saurez pas quelles sont les études qu'il faut faire. Et après, vous allez avoir des difficultés pour intégrer le marché du travail. Et ensuite, vous aurez peu de formation tout au long de votre vie. Donc, il ne faut surtout pas louper le coche et ça commence à l'âge de 3 ans.
Et il ne faut surtout pas louper le coche aussi. Peut-être, tout à l'heure, on parlait de l'égalité homme-femme. Vous avez étudié ça également à l'OCDE. Elle est où la clé ? Comment est-ce qu'on fait pour accélérer le mouvement, Laurence Boone ?
Alors, pour l'égalité homme-femme, je pense qu'il y a trois questions. La première, c'est l'éducation, à nouveau, vraiment, qui est la clé, parce qu'on voit bien, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, que plus les écarts d'éducation, de qualification se resserrent, moins il y a d'écarts de salaire, d'emploi, etc. Ceci dit, en France, c'est vrai jusqu'à ce qu'on arrive pour les très qualifiés à la deuxième partie de la carrière, où c'est beaucoup moins vrai.
Mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. On va en parler dans une minute.
Ensuite, il y a les enfants. Et il faut quand même, ce qu'on a vu, ce qui est très frappant, c'est que les 10-15 premières années d'une carrière professionnelle, elles sont clés. Et pas de bol pour les femmes, c'est quand elles font des enfants, et c'est en général quand elles s'arrêtent ou qu'elles passent à temps partiel. Et là, ça va creuser un écart qui va persister tout au long de la vie, surtout si on a moins de diplômes. Le troisième, c'est quand même la culture. Regardez le cas du Japon, qui a été très 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 longtemps pas du tout pro-femmes, qui se rend compte maintenant qu'avec le vieillissement, il faut absolument intégrer les femmes sur le marché du travail, mais qui n'a pas cette culture de rémunérer à la juste valeur ou d'employer à plein temps et d'avoir des sentiers de carrière pour les femmes.
Laurence Boone, ma dernière question. Est-ce qu'avoir des femmes au poste de directeur de recherche économique, directrice dans les grandes institutions internationales, ça change quoi que ce soit ?
On verra, puisqu'on vient toutes les trois d'être nommées.
Au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, oui.
Absolument, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, la diversité, ça apporte quelque chose. Et je pense que ça change quelque part la culture. Je me suis fait la réflexion l'autre jour, quand vous m'avez demandé ou expliqué de quoi on allait parler. Chaque fois que j'ai construit des équipes, je ne me suis jamais posé la question, mais il y a toujours eu au moins 40% de femmes.
Parce que
c'est naturel, parce qu'on va chercher les compétences sans biais, et je pense que ça joue énormément. C'est même pas un réflexe, c'est juste je regarde les compétences qui sont là et je les prends et j'ai pas du tout de biais. Et je pense que beaucoup de femmes sont comme ça.
Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci Alexandra.
Bah Sandrine, on dirait que Laurence Boone a lu la question d'Émilie. Sur les diplômes, on le sait, il reste un rempart, ces diplômes contre le chômage. Mais est-ce qu'ils sont aussi efficaces? C'est ce que veut savoir Émilie, pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.
C'est vrai Émilie, chaque année à l'approche du 8 mars, les études pleuvent sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Et deux d'entre elles, publiées cette semaine, sont éclairantes sur la place des femmes diplômées. L'agence européenne Eurofound rappelle que malgré le niveau de formation des femmes, les hommes sont en Europe deux fois plus nombreux qu'elles à occuper un poste de cadre. En Suède, qui fait partie des meilleurs scores, 42% des managers sont des manageuses. En France, seul un tiers des cadres sont des femmes. Et encore, toutes n'ont pas le même niveau hiérarchique. C'est une constante partout en Europe. Les femmes ont moins de responsabilités que les hommes. Et quand elles encadrent des équipes, elles dirigent plutôt des femmes, des jeunes, des salariés à temps partiel ou en CDD. Il n'y a que 15% d'hommes en Europe qui soient dirigés par une femme. Autre mauvaise nouvelle, les femmes cadres ne jouissent pas du même niveau de bien-être que leurs homologues masculins, nous dit pudiquement l'étude. Pour réussir à mener de front boulot et vie de famille, elles doivent travailler davantage que les femmes non cadres et que les hommes. Et ce surcroît de travail n'est pas forcément rémunéré.
Et pourtant, Sandrine, les femmes, elles sont de plus en plus diplômées. Elles devraient commencer à en ressentir les bénéfices.
Oui, alors c'est une autre enquête, celle du Centre d'études et de recherche sur les qualifications, le CEREQ, qui confirme cette tendance pour la France. Depuis 20 ans, les femmes sont de plus en plus diplômées de l'enseignement supérieur. Et bonne nouvelle, les écarts de rémunération entre les sexes se réduisent en début de carrière. Mais c'est un soulagement relatif. Avec leur niveau de diplôme, les femmes devraient être plus nombreuses à devenir cadres. Or, 5 ans après leur sortie d'études, elles sont surtout plus nombreuses que les hommes à rester en dehors de l'emploi ou à décrocher des jobs à temps partiel ou en CDD. Émilie, le diplôme reste le plus sûr moyen de trouver un job et un bon. Encore faut-il ne pas être chassé des secteurs porteurs. La fondation Femmes Numériques relève qu'en 30 ans, la part des femmes ingénieures en informatique a chuté de 33% à seulement 15%. On aurait pourtant bien besoin de femmes dans le numérique. Une étude de l'école Télécom Paris Tech montre combien les algorithmes et ceux qui les conçoivent peuvent être sexistes. C'est un nouveau combat à mener.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.